circulaire commence aujourd'hui, mercredi 4 février 2015, et c'est la 54e émission, 55e, 56e, je ne sais plus du tout. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Gérald est bien présent dans le studio avec moi, ainsi que Morgane, Perrine est là, ou presque, et ce sont deux employés, deux personnes qui sont dans cette entité, je ne sais pas comment la nommer, association Trabouloscope. Elles sont, de toute façon, ces deux jeunes femmes sont là pour nous parler de ce concept, ce projet, de cette chose, cette société, cette organisation, cette entreprise. Bref, nous allons donc voir pendant toute cette émission de quoi il s'agit, Trabouloscope, avec leurs différents projets, notamment les capsules vidéo. Il y a une web-série documentaire en travaux qui avait été lancée en décembre dernier. D'ailleurs, Morgane était déjà passé le mercredi 17 décembre. Et puis, il y a aussi Jess, journal de l'économie sociale et solidaire, qui est en cours depuis le mardi 20 janvier. Donc voilà, ces deux jeunes femmes, Perrine et Morgane, sont avec nous pour en parler. Gérald doit faire un compte-rendu sur l'opéra Idoménée qu'il est allé voir cette semaine, qui continue encore jusqu'à ce vendredi 6 février. Et moi, comme d'habitude, je vais bavarder et puis passer des CD. Le premier CD pour commencer cette émission, c'est un truc que m'a passé Gérald. C'est une sortie, donc on lance comme ça, histoire de bien se poser, de bien préparer la chose, préparer toute cette émission avec Morgane et Perrine. Et puis voilà, Gérald cherche à me parler, je n'entends rien. Vous êtes bien sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous pouvez également nous écouter sur internet radiocanu.org. Il est 14h05, c'est absolument terrible, on a un retard fou. 15h, le Blues et Canu commencera, et puis il y a encore d'autres émissions. Bref, nous nous calmons, écoutons la musique et continuons. Spectaculaire, 54e, 55e, je ne sais même plus, ça ne compte pas.
Facebook spectaculaire.
Alors, ça continue encore pendant 10 secondes comme ça, je crois à peu près. Gérald, qu'est-ce que nous écoutions exactement ?
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour Perrine, bonjour Morgane, bonjour Christophe.
Bonjour Gérald, bonjour Christophe.
Vous avez entendu passer un
bon bonjour tout le monde.
Arto Lindsay. Alors, Arto Lindsay, ben, je ne connais pas exactement sa carrière. Je sais qu'il a fait partie d'un groupe très célèbre. En tout cas, il a un mélange d'influences brésiliennes, anglo-saxonnes. Il a une voix magnifique, à mon goût. Et il y a quelques mois, il y a une compilation qui est sortie de ses meilleurs titres. Alors ça, c'était extrait d'un album qui s'appelle Salt. Salt,
hein, Salt, on va dire. C'est du sel, oui, je crois.
C'est du sel,
ouais.
De
en
2004.
Anglais.
Voilà.
2004
Guitariste, compositeur, et un excellent musicien, un univers très, j'ai envie de dire, soyeux. Et expérimental en même temps, très varié. Voilà, et c'était avec Gibbs, là.
La chose était totalement prévue, puisque tu viens de dire à l'instant univers soyeux, et puis tu as dit également expérimental. Moi, il me semble que ce sont des mots parfaits pour qualifier Trabouloscope. Disons, ce que j'ai compris de cette je vais arrêter de trouver des mots. Perrine, je vous en prie, Morgane, je vous laisse la parole pour présenter Trabouloscope avec peut-être les dates, enfin, disons, même, je vous laisse faire, en fait. Vous avez la parole toutes deux. Vous pouvez même procéder avec des noms, je crois, Dr. Stan. Non, j'ai vu indiquer différentes choses. Je vous en prie, je vous laisse causer.
Dr. Stan arrivera plus tard.
Bon, Dr. Stan arrivera tout à l'heure. Les filles, c'est à vous pour présenter donc ce projet, ce Trabouloscope, voilà.
Bonjour, enchantée, c'est Morgane Ivanov, je suis chargée de production à Trabouloscope.
Donc, bonjour, c'est Perrine Martin, chargée de production à Trabouloscope, merci de nous recevoir.
Il faut peut-être commencer par expliquer aux auditeurs ce que c'est donc Trabouloscope.
Trabouloscope, donc, c'est une association de production de films documentaires. On est basé dans les pentes de la Croix-Rousse. Et donc on produit des films documentaires, on produit des web documentaires et on a 6 ans maintenant.
Les auditeurs, ils vont croire que l'équipe est au complet. Est-ce qu'on travaille toutes les deux à Trabouloscope seulement ?
Bon, c'est vrai, on est deux salariés permanentes, toi, Morgane et moi. Ça, c'est ce qui se passe en interne. Mais ensuite, on engage des intermittents, donc des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, des photographes, des graphistes. Selon les projets qu'on porte, on complète notre équipe de cette manière-là.
On peut peut-être expliquer un peu comment on est organisé plus précisément ?
Donc, notre structure, on a... En gros, deux pôles d'activité principaux qui sont d'un côté pôle de prestation audiovisuelle. Là, on réalise des films pour des gens en fait qui nous sollicitent, qui nous en font la demande parce qu'ils veulent valoriser leur activité, un événement, un projet qu'ils sont en train de porter. Et donc là, c'est un rythme de production assez rapide. On va faire des films qui durent 2, 3, 5 minutes. Et finalement, il peut y avoir 3 semaines entre le moment où on nous appelle et le moment où on livre le film. Ça, c'est la prestation. Et c'est équilibré avec un autre pôle qui est aussi intéressant, qui s'appelle la création.
Alors la création, ça c'est plutôt ma partie, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Le pôle de création, donc c'est un pôle au sein duquel on développe des projets qu'on porte parce qu'on est sensible à ces sujets, parce qu'on a envie de porter un sujet, de raconter une histoire en particulier. Certains de nos projets de création sont amenés par des auteurs en externe ou des producteurs, et il y a d'autres projets qui viennent bien sûr d'idées qui prennent naissance en interne à Trabouloscope.
Oui, c'est ça, la liberté est beaucoup plus grande dans ce pôle de création. On fait un petit peu ce qu'on veut, on montre ce qu'on a envie, on le fait avec notre regard qu'on porte dessus, et donc et c'est vrai qu'on s'amuse bien à porter ces projets-là.
Alors pour les gens, Trabouloscope, c'est une boîte de prod. Est-ce qu'on est une boîte de prod à proprement parler ?
Bon, on est une boîte de prod dans le sens où effectivement on produit des films documentaires, mais il y a une nuance quand même, c'est qu'on est une association et donc avec un fonctionnement spécifique, j'ai envie de dire. Au sein de Trabouloscope, il y a une dizaine de bénévoles. Un gros merci à vous tous de nous soutenir depuis la création de la structure. Ces bénévoles, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils acceptent de se réunir une fois par mois au sein d'un conseil d'administration. Nous, en tant que salariés, on liste des sujets, un ordre du jour, des questions qui nous préoccupent. Et puis on se réunit, on discute, on débat, on prend des décisions, on vote aussi. Et pendant tout le mois qui s'ensuit, ça oriente finalement la structure, et ce fonctionnement marche depuis sa création finalement.
Voilà, donc à Trabouloscope, les grandes décisions, on les prend à plusieurs, même si la structure, de façon fixe et quotidienne, est portée par les salariés permanentes, et donc en ce moment, nous-mêmes.
Et justement, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait, Morgane ? On recrute une chargée de production ou un chargé de prod pour venir nous rejoindre et développer création et prestation, les deux. Suivez, c'est sur notre site internet trabouloscope.org, l'annonce est en ligne jusqu'au 13 février.
Alors maintenant, parlons un petit peu de ce que c'est que ce poste de chargé de production. Qu'est-ce que signifient ces mots ? Il faut bien expliquer que faire être chargé de production, ça consiste pas seulement à faire des budgets et monter des plans de financement.
Ah, c'est vrai qu'il y a le côté financier qui est bien présent dans la tête des gens. On fait beaucoup plus, on est un petit peu l'interface, le filtre entre les clients ou les financeurs ou les diffuseurs et l'équipe technique. Donc on suit le projet du début à la fin, on crée les équipes techniques en fonction des projets qu'on va porter. Ensuite, on suit l'écriture des scénarios, on prépare les tournages, on suit les montages et on livre le film fini. Donc ça représente tout ça, faire de la production, pas qu'à Trabouloscope.
La diffusion aussi ?
Ouais, on fait de la diffusion des projets. Donc en principe, dans le fonctionnement qui fonctionne bien, c'est d'abord, quand on a un projet, aller chercher des diffuseurs, des gens, des télévisions ou... que sais-je, tous les types de médias qui nous disent « bah oui, nous on va accepter ce projet de le montrer ». Si on a des diffuseurs qui nous suivent, alors on va rechercher des financeurs et on va créer le projet. Donc ça fait partie entièrement de notre travail et la communication bien sûr.
Donc ce ne sont pas que des web films alors ? Ça peut être diffusé lors de festivals, etc.
Lors de festivals, lors de projections. Pour ce qui est de nos créations, la plateforme principale de diffusion, c'est le web, c'est notre site internet et des sites annexes spécifiques à chaque projet. Parce que la plupart de nos créations, on les place en diffusion sous licence Creative Commons et donc avec une diffusion gratuite sur le site internet. Notre volonté étant d'être que nos films soient vus avant toute chose.
Mais justement, tu nous parles de nos films. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux auditeurs quel type de films on fait à Trabouloscope ? Est-ce qu'on fait des reportages télé, genre ?
Ah bah non, à Trabouloscope, on ne fait pas des reportages télé, on fait des documentaires. Et le documentaire, c'est différent du reportage télé, c'est différent de l'actualité. Le documentaire, ça consiste à raconter le réel, à le mettre en scène, à aller chercher des personnes qui ont des histoires à raconter et à mettre ces histoires en images. Donc on part à la rencontre de gens et en faisant des films sur ces gens, ces personnes deviennent des personnages d'un film. Donc le documentaire, ça sert à mettre en fait en réalité des réalités en lumière. Des réalités dont le public n'a pas forcément conscience. Le documentaire, ça nous questionne aussi sur des sujets qu'on connaît déjà, mais qu'on ne voyait pas de cette façon-là.
Ouais, ça demande aux réalisateurs artistes un petit peu d'aller puiser dans ce qu'ils ont. Donc on peut par exemple imaginer là filmer ce studio de radio, mais en mettant que des plans de micros, de câbles, et finalement présenter la radio comme juste un mécanisme électrique. Ou enfin, selon ce qu'on filme, selon les plans qu'on coupe, qu'on monte, on peut changer la réalité et enlever peut-être le côté humain de la radio.
Si... De toute façon, la frontière n'a jamais existé. Elle est pas du tout étanche entre le documentaire et la fiction. Ça.
Ouais, on est bien d'accord.
Bien d'accord. Mais on pourrait aussi faire un documentaire uniquement axé sur l'humain, qui serait un portrait de Gérald, Christophe et la façon dont ils travaillent est spectaculaire.
Est-ce que vos thématiques se centrent exclusivement sur les pentes de la Croix-Rousse ? Est-ce que c'est un aspect uniquement régional,
local.
Oui. Alors, déjà, nous, on a l'idée de ne jamais s'enfermer dans rien, donc nos thématiques sont très ouvertes. Il y a une chose, un fil rouge en tout cas, c'est qu'on a toujours une façon d'aborder les sujets qui est par la valorisation de l'humain. Et ensuite, au sein de notre ligne éditoriale, on traite de sujets de l'ESS, de la culture en général, du développement durable, mais aussi événementiel ou du patrimoine, ce genre de choses. Donc, on touche un petit peu à tout sur le territoire de Lyon et en Rhône-Alpes.
Par exemple, un scénariste, un auteur vient vous voir et j'ai une idée comme ça, et veut réaliser un documentaire sur les révoltes des Canuts, l'historique des pentes des Canuts, un documentaire disons plutôt historique, à base d'images, d'archives, etc. Ça vous intéresse ce genre de projet ?
Oui, on n'est pas du tout, comme je dis, on s'enferme dans rien, mais ça va dépendre de la vision que porte le réalisateur sur ce sujet-là. On va essayer de chercher un côté artistique, et donc peut-être qu'un film purement historique, qui montre des archives, c'est pas forcément notre ligne éditoriale, d'autres le font mieux que nous.
Donc une écriture artistique.
Oui, tout à fait. Et un regard, voilà, un regard particulier. C'est pas forcément la thématique et le sujet traité qu'on regarde en premier. Quand on reçoit un projet, bien sûr, si on est sensible à ce sujet, on va l'étudier avec beaucoup plus d'attention. Mais ce qu'on regarde de très très près, c'est le regard particulier qui est porté par le réalisateur sur cette ou ces réalités qu'il a décidé de raconter. Et donc, dans tous nos films, à Trabouloscope, quelles que soient les thématiques traitées, qu'il s'agisse de films portés par le pôle de création ou par le pôle de prestation, notre souci principal, c'est de valoriser l'humain. Et cette valorisation de l'humain, elle existe dans tout le processus de création, dans la façon dont on travaille ensemble, dans la façon dont, dont les films sont écrits. Et cette valorisation de l'humain, ça se voit dans les résultats des films de Trabouloscope. Je pense que c'est le grand point commun entre toutes nos réalisations.
Donc le SS, c'est l'économie solidaire et sociale, c'est ça, si je comprends bien. Il y a quelques petits films à regarder sur votre site, qui est très bien fait, que je consultais tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Avec tous vos partenaires, bon, ça part dans plein de directions, c'est intéressant, une grande tentacule. qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs ? Je voulais poser une question. Il y a une dimension donc politique dans votre travail, vraiment tournée vers le social ?
Bah, vers le social, sachant que nous, on fait des films avant tout, donc il faut mesurer quand même cette dimension sociale. C'est des thématiques qu'on traite. Après, est-ce qu'elle a une visée, une portée qui vont améliorer ? Pas sûr. Hein. Voilà, faut faire la part des choses. Chacun son travail et son métier. Nous, on produit des films, on essaye de toucher les gens, d'être montrer une sensibilité qu'on a, voilà.
Et en termes de financement, alors vous avez des aides
En financement, on est là...
C'est une association de 1900, hein, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
Avec
le pôle de prestation finance à plus de 50% notre activité, 60% même. Et ensuite, on a des subventions qu'on va chercher selon les projets. Et c'est à peu près tout.
Voilà. Ça veut dire qu'un auteur-réalisateur, vous réalisez un projet, il sera aussi rémunéré pour son travail.
Ah, mais bien sûr, nos projets, l'ensemble des techniciens qui travaillent dessus, et nous, en tant que productrices, sont rémunérés. On a des bénévoles, mais qui participent, si vous voulez, à la vie associative, jamais à la production directement.
Et après, en termes de diffusion, comment ça se passe en termes de droits d'auteur?
On essaye d'avoir des partenariats avec des chaînes de télévision locales, avec aussi les gens pour qui on fait les films, on s'assure qu'ils vont être le relais. Par exemple, la ville de Lyon nous a financé un projet et là, ils sont en train de nous soutenir massivement sur leur page, sur leur site internet, sur le maximum de pages qu'ils peuvent faire ou dans des événements aussi. Enfin, ça, c'est à nous de faire ce travail-là.
Et vous travaillez avec d'autres... Il y a l'Institut du court-métrage de Rhône-Alpes, vous connaissez peut-être?
Oui, de nom. Mais on ne travaille pas avec eux.
On ne travaille pas directement.
Le théâtre de l'Élysée, les Inattendus, tous ces festivals. Vous allez travailler en partenariat avec eux ou c'est pas du tout en perspective?
Pour le moment, on n'a jamais été programmé aux Inattendus, non. Ça viendra peut-être et on l'espère, oui.
Qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Est-ce qu'on ne présenterait pas un petit peu comment Trabouloscope s'est créé? D'où ça vient cette idée de Traboule?
D'où vient cette idée de Trabouloscopie? Comment tout a commencé?
Peut-être rappeler ce qu'est une Traboule aux auditeurs qui ne seraient pas lyonnais. Tout le monde ne peut pas être de Lyon, comme disait l'autre.
Bon, un Traboule, c'est un passage entre des bâtiments qui permettent d'accéder d'une rue à l'autre, d'une rue parallèle à l'autre, mais de le faire au travers de bâtiments. Du coup, on gagne du temps. C'est assez joli. En principe, à Lyon, c'est assez touristique, les Traboules lyonnaises. On vous conseille d'aller voir.
On est dans le monde entier.
Ouais, peut-être.
On protège les intempéries.
Aussi, c'est surtout très utile aux Lyonnais.
Dans d'autres pays, on peut traverser toute la ville sans se mouiller.
Mais c'était aussi intéressant pour les canuts de porter les tapis au travers de ces ruelles intramuros pour gagner du temps.
Et puis c'est intéressant aux canuts du 21e siècle pour traverser la colline cachée à l'abri de la pluie et des vents et dans ces couloirs obscurs. Donc Trabouloscope. Alors moi je travaille à Trabouloscope depuis un petit peu plus d'un an. Donc Trabouloscope a 6 ans, j'étais pas là au début. Perrine, toi tu y travailles depuis plus de 2 ans, donc je pense que raconter l'histoire et l'histoire de Trabouloscope et comment tout a commencé te revient.
Qui a fondé, qui a eu l'idée, le nom?
Donc c'est trois fondateurs, Xavier Falandry, Antoine Brendlen et Thomas Bouet, trois réalisateurs documentaires qui avaient donc cette envie là de partir à la rencontre de leurs voisins, de chercher, partir du principe que tout le monde a quelque chose à raconter aujourd'hui, que ça vaut le coup de s'y arrêter dessus et qu'on peut créer des histoires à partir des propres histoires personnelles des gens. Ils avaient une envie un petit peu à la manière de striptease, si vous voulez, de dresser des portraits de personnes. Grosse envie, un vrai regard documentaire, je pense, mais pas vraiment d'argent. Et là, en se baladant dans la Croix-Rousse, ils ont remarqué qu'il y avait un gros chantier qui était en construction, le nouveau tunnel de la Croix-Rousse, le tunnel Mode Doux, qui a été construit pendant 4 ans en parallèle du tunnel existant. Et ça, ça leur a donné une belle idée. Ils sont allés voir la direction de la communication du Grand Lyon et présenter ce projet qui est devenu en travaux une colline, un tunnel, des hommes, dont tu peux nous parler.
Alors je propose qu'on écoute le générique d'En Travaux, une création de DJ Chloé. Alors ça, c'est la musique du générique d'En Travaux. Donc comme Perrine vous l'expliquait, Xavier Falandry, Thomas Bouet et Antoine Brendlen ont été au service communication de la Voirie du Grand Lyon pour leur proposer le projet qui allait devenir En Travaux. Donc ce qu'ils leur ont proposé, c'est de communiquer sur ce grand projet de construction du tunnel de la Croix-Rousse, dont les travaux allaient durer 4 ans, de 2010 à 2014. Ils leur ont proposé de créer un outil de communication différent, créatif, donc une série documentaire qui allait être produite sur 4 ans, composée de 30 courts-métrages, et réaliser chaque court-métrage de façon indépendante. Tous les épisodes prennent la forme d'un portrait, donc ça peut être le portrait d'un ouvrier, d'un habitant de la Croix-Rousse, voire même dans certains cas la personnification d'un quartier. Au total, sur la série En Travaux, sur les 30 épisodes, pardon, il y a une dizaine de réalisateurs qui ont travaillé. Donc l'idée, c'était de raconter l'histoire des métamorphoses urbaines et des changements qu'allait impliquer la construction de ce tunnel au sein du quartier de la Croix-Rousse, mais au travers du regard des habitants, donc de façon différente. Donc tous les films de la série En Travaux sont en lien de façon directe ou indirecte avec le tunnel, le creusement du tunnel. Donc c'est un thème, le tunnel, qui peut être exploité parfois de façon très concrète avec des épisodes qui ont lieu au cœur même du chantier, en compagnie des ouvriers, ou traité de façon beaucoup plus métaphorique et conceptuelle dans d'autres épisodes qui peuvent aller même jusqu'à la docu-fiction.
Comment sortir du tunnel, par exemple?
Comment sortir du tunnel? Donc pour vous donner un exemple de réalisation, je vais laisser la parole au docteur Stan Pacioli, qui est le héros de notre épisode 15, qui a été réalisé par Thomas Bouet et par Perrine Martin, qui est ici. Le docteur Stan Pacioli, c'est un personnage fictif qui va nous présenter sa théorie par rapport à l'avantage de construire un tunnel pour les habitants du quartier de la Croix-Rousse.
Heureux descendant de l'illustre mathématicien Luca Pacioli, qui aux côtés du génial Leonardo da Vinci introduisit le nombre d'or en Europe, le docteur Stan Pacioli, brillant chercheur du Newton Next One Institute dans le Colorado, nous fait part de ses nouvelles découvertes. Le docteur Stan, il tient à le dire, n'a fait que transcender les formules de Pythagore, Al-Kashi, Newton, Kepler ou Copernic pour les appliquer aux méthodes de l'anthropologie moderne et de la physique quantique. Son domaine, la physique anthropokinétique, ou l'étude de l'homme dans ses déplacements aléatoires. Nous allons analyser aujourd'hui comment l'homme bipède se rend d'un point A à un point B et comment cela influence son quotidien. Pour ce faire, notre modèle d'étude est une colline réputée pour sa complexité, la colline de la Croix-Rousse, à Lyon, dans le Rhône. Le docteur Stan trouva là un terreau fertile pour la mise en pratique de ses théories. Il existait déjà des courses de chèvres, de vélos et d'automobiles. On rapportait même que si l'on plaçait un ours sur ses pentes, il devenait systématiquement bipède.
Alors, la suite de la théorie de la physique anthropokinétique du grand docteur Stan Pacioli, vous la retrouverez sur le site de la web série.
C'est l'épisode 15. Et pour vous en dire un petit peu plus, d'où vient cette idée, en fait, j'étais, je crois, en stage à ce moment-là à Trabouloscope. Je voyais des gens monter et descendre sur la colline qui me paraissait à ce moment-là assez grande, assez immense. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire croire que ces gens-là qui se baladent finalement parce qu'ils ont besoin de se déplacer participent d'une grande expérience scientifique et finalement qui sont dans un laboratoire, dans une éprouvette sous l'œil du microscope du docteur Stan Pacioli, et finalement qu'on les chronomètre pour essayer de voir est-ce que c'est plus lent de passer par le sommet de la colline, d'aller d'un point A à un point B en plaçant par le sommet, ou est-ce que c'est finalement plus lent de passer par le tunnel. C'est l'expérience qu'on a réalisée et je vous laisse découvrir le résultat dans l'épisode. Assez scientifiquement parlant, à prouver.
Voilà, donc ça c'était l'épisode 15, l'un de nos 30 épisodes. On a aussi beaucoup fait le portrait d'habitants, d'artistes et d'ouvriers qui vivent la Croix-Rousse et qui font vivre le quartier. Donc comme je vous l'ai dit, le traitement des films peut être vraiment très variable d'un épisode à l'autre. Donc là, je vous propose, après le docteur Stan Pacioli, d'écouter de l'un de nos personnages réels dans Travaux. Il s'appelle Monsieur Charles, c'est l'une des stars de notre série et c'est le personnage principal de l'épisode 2. Donc dans cet épisode, on va non pas le regarder parce qu'on est à la radio, mais on va l'écouter partir en promenade avec son chien Sonny.
Sonny, si on allait se promener, qu'est-ce que... Hein? On y va? Voilà. Allez, mon petit bébé. On va aller se promener. Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui. On va aller se promener, oh oui. Allez, on y va. On y va? Allez. On va se promener. Allez.
Regardez comme elle est belle, cette Croix-Rousse. Elle a quelque chose de Tennessee. Il faut la protéger. Il faut la faire connaître. Il faut l'aimer et la respecter.
Allez. Voilà. Allez.
On garde ça.
Et le soir, à coucher du soleil, on entend les oiseaux gazouiller. Écoutez, vous entendez ça? Il y a des fois, quand je suis dans mon appartement, je ferme la télé et j'écoute les oiseaux. Et ça, c'est magnifique. Il y a qui c'est qu'on peut voir ça? J'ai apprivoisé la Croix-Rousse et j'ai apprivoisé cette montée Bonafou que j'adore. Et je me suis investi. Quand il y a quelque chose qui se dégrade.
Donc là, vous avez écouté Monsieur Charles. Je vous invite à voir les images qui accompagnent cette bande-son. Dans la jolie promenade de Monsieur Charles et de Sonny au sein de cette belle colline de la Croix-Rousse qui a quelque chose de Tennessee.
C'est vrai qu'on a touché plein de sujets dans cette série. Il y a 3 épisodes qui ont été réalisés un petit peu... à la manière de C'est pas sorcier, en tout cas, c'est la colline de la Croix-Rousse qui est personnifiée et qui se demande, ça me démange dans mon ventre, il y a des choses qui se passent, c'est pas génial en ce moment, et qui va essayer de comprendre pourquoi elle est pas bien. Et en fait, finalement, elle va découvrir qu'on est en train de creuser dans ses entrailles à l'explosif. Donc on explique aussi comment elle est faite en fonction de ses strates, de ses couches. Il y a des géologues qui parlent, mais c'est quand même adapté à un public plus jeune. Et donc voilà, vous imaginez qu'en 30 épisodes traités tous avec un regard différent, il y en a des choses à raconter sur cette série.
Mais c'est vrai que cette trilogie de Mademoiselle Croix-Rousse qui a des démangeaisons, et puis après vraiment ça la gratte, et puis là elle fait un gros régime et elle perd des tonnes, et elle est un petit peu perdue, donc elle va demander conseil à son géologue, elle va demander conseil aux personnes qui se sont occupées du creusement du tunnel. Ça fait partie des épisodes qu'on aime beaucoup.
Ouais, tout à fait.
Donc comme je vous le disais avant, tous les films traitent directement ou indirectement du tunnel. Là, les extraits qu'on a écoutés ne parlaient pas concrètement du tunnel. Le tunnel, c'est un mot concept, c'est un mot valise, en plus d'être une construction. Donc on a tous un point de vue différent sur le tunnel. Ces différences de point de vue, c'est la grande richesse dans Travaux. On l'a utilisé aussi bien avec les réalisateurs, les réalisateurs l'ont utilisé, que en faisant appel aux personnages et aux réflexions des personnes qui apparaissent dans les épisodes pour savoir quelle était leur vision du tunnel. Donc on va suivre avec un autre exemple, c'est l'épisode 22 qui s'appelle Le Conte Japonais, qui a été réalisé par Raphaël Gutiérrez. Et donc dans cet épisode, Raphaël a demandé à son personnage, qui s'appelle Agnès Chavanon et qui est conteuse, de lui raconter une histoire qui est liée au propre concept que Agnès Chavanon a du tunnel. Est-ce qu'on l'écoute ?
Quand on est dans le tunnel, on se rend compte que on a été vainqueur du temps. Le tunnel, il est creusé sous la montagne. Avant qu'il tunnel, les gens sont obligés d'escalader la montagne pour passer par-dessus. Et une fois qu'il y a le tunnel, on est vainqueur, on a maîtrisé le temps. Je vais vous raconter une histoire. Zenkai était fils de samouraï. Il était un jeune homme droit, bon. Puis un jour, il aperçoit la reine, la femme du roi. Et il en tombe follement amoureux. Comme il veut partir avec elle, il tue le roi. Elle est très belle, la reine, mais elle a très mauvais caractère. Et elle est tellement dure avec Senkai qu'il la tue. Que faire ? La police le recherche, le fils du roi et de la reine le recherche. Il part sur les routes et il se fait mendiant pour leur échapper. Il arrive dans un village et il voit un vieux moine bouddhiste. Il s'assoit près de lui, il écoute ses conseils. Et il comprend qu'il a fait deux crimes épouvantables et qu'il doit expier. Et dans le village où il s'est installé, les gens sont obligés d'escalader une haute montagne pour aller vendre leurs produits à la ville voisine. Et la route qui serpente dans cette montagne est tellement difficile, dangereuse, que souvent il y a des accidents mortels. Alors il se dit, pour expier mes fautes, je vais leur construire un tunnel. Il prend une pelle, une pioche, un pic, et il commence à creuser, à creuser, à creuser. Pendant la journée, il mendie sa nourriture. Pendant la nuit, il creuse le tunnel. Il creuse ainsi pendant 30 ans. Et au bout des 30 ans, un jour, il voit arriver un homme. Il le reconnaît tout de suite. C'est le fils du roi et de la reine. Quand le fils le voit, il lui dit « Ah, te voilà, cette fois-ci tu ne m'échapperas pas », il prend son sabre. Et au moment où il va pour le tuer, Zenkai lui dit « Attends, j'ai presque fini ma tâche. Il me manque 2 ans pour finir mon tunnel. Je t'en supplie, Laisse-moi finir.
La fin de l'histoire de Zenkai, racontée par Agnès Chavanon, sur le site de la websérie Dans Travaux.
Alors, on fait une petite pause. J'ai une petite question critique un peu désagréable à vous poser. On a compris votre travail qui est très intéressant, votre rapport aux gens, à l'humain, au local, au social. Alors, une petite question un peu pour mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous allez, vous comptez faire la même série de petits documentaires, par exemple sur le grand stade de Décines, en allant faire un sujet sur l'expropriation des gens qui voulaient pas partir? Est-ce que vous allez faire un sujet sur le gouffre financier, l'énorme gouffre financier du musée des Confluences? Est-ce que vous allez peut-être faire une série, puisqu'on est dans les travaux, sur ce parking absolument ignoble, financé par le Qatar, qui va voir le jour, encore du deuxième arrondissement de Lyon, hein, avec l'abattage de trentaines d'arbres dont on a prétexté qu'ils étaient malades alors qu'ils étaient en pleine forme. Je les ai vus, j'ai failli pleurer. Voilà. Il y a une dimension, c'est toujours le problème de la subversion et de la subvention. Vous faites des choses très intéressantes, pédagogiques, humoristiques, de talent. Maintenant, est-ce que vous grattez parfois là où ça fait mal ou pas? Par rapport à la mairie, par rapport aux subventions que vous touchez, etc. C'est une question un peu raide, mais il faut la poser.
Pour vous répondre, c'est... dans notre façon de faire des films, on fait très peu de documentaires de genre polémique. Qu'il s'agisse de sujets politiques, qu'il s'agisse de sujets de société, on peut parler de tout et raconter tout type d'histoires, mais on s'engage pas très
pas
fortement.
Comme disait
de façon polémique, c'est un genre documentaire que je respecte beaucoup.
En même temps, vous prenez parti. Bon, le tunnel de la Croix-Rouge, c'est parcours vert, c'est très bien. Vous êtes dans le développement durable, l'économie sociale, etc. Vous rendez un peu hommage à ce tunnel qui avait une nécessité, évidemment. Hein. Je suis pas là pour tout descendre et râler, dire que tout est moche et il y a de la buée partout. Et voilà. Je suis pas là pour dire ça. C'était pour un positionnement plus précis, quoi.
Mais là, par exemple, pour reprendre l'exemple d'En Travaux, l'objectif, c'est pas de sublimer ce grand projet du Grand Lyon et de dire que tout est merveilleux. Non, dans tous ces films, justement, quand on dit qu'on tous ces films étant en plus unitaires, qu'on dresse un portrait global et pluriel de ce qu'a pu impliquer la construction de ce tunnel au sein de la Croix-Rousse, on le fait vraiment au regard des habitants et des ouvriers, et le regard parfois peut être critique, non pas polémique comme je l'ai dit, mais en tout cas si critique avec de la distance, et on n'est pas dans une logique de promotion du tout. Quand il s'agit de création, on porte un regard propre sur un sujet propre. Voilà. Et vous parliez de sujets là, de société et d'actualité. Comme je disais, c'est pas exclu de le faire prochainement. Mais jusqu'ici, les films qu'on fait, les œuvres qu'on produit, ne sont pas en lien directement avec l'actualité. On a plutôt tendance à faire des films qui pourront être regardés, qui auront encore du sens dans 5 ans ou plus.
Ben écoute, t'as tout dit. Merci Morgane. Du coup, on était sur En Travaux, 4 ans pour faire 30 épisodes documentaires. Il en est où maintenant,
oui,
ce projet?
Alors, ce projet, après 4 ans donc de travail collectif, c'était un gros travail de produire la série. La série, on l'a terminée avec le 30e épisode en juillet 2014. Et une fois la série terminée, on a attaqué la production du web documentaire qui porte le même nom, qui s'appelle aussi En Travaux. Le tout a été regroupé sur une même plateforme, qui est la plateforme de l'œuvre transmédia En Travaux. Donc c'est un site internet où on a accès à l'ensemble du projet. Je vais donner l'adresse, c'est www.entravaux-documentaire-interactif.org, et donc gratuitement on peut avoir accès aux deux œuvres. Donc ce qu'on a fait, c'est de reconstruire le récit d'En Travaux et de le globaliser. La série, c'est 30 épisodes unitaires, et ben nous on en a fait un portrait global, une balade interactive avec le web documentaire.
Donc ok, on va sur l'œuvre transmédia dans Travaux, tu nous as donné l'adresse, on a accès d'un côté à la websérie Les 30 épisodes, de l'autre côté on peut aller dans le web documentaire, et là on est donc plus en immersion si je te suis.
Voilà, donc dans le web documentaire, on clique sur le web documentaire, on arrive sur une page mystérieuse qui ressemble un petit peu à une couverture de livre et qui représente l'univers graphique et sonore dans Travaux en général. Il y a un petit bouton qui indique explorer, et là donc l'exploration se lance et on arrive sur l'interface d'accueil, la home du webdoc. Et donc on a trois options, c'est trois portes d'entrée, c'est les trois zones du web documentaire. Donc il y a la colline, le tunnel et les quais. L'utilisateur avec sa souris choisit l'une de ces portes d'entrée, et là une vidéo va se lancer automatiquement. À la fin de cette vidéo, on va lui proposer deux choix écrits par des boutons, un petit peu à la façon du livre dont je suis le héros. Les deux choix, ça consiste en général à continuer d'explorer la thématique sur laquelle qu'on vient de terminer, donc en général de poursuivre la séquence entamée, ou alors de rebondir vers un autre contenu complètement différent mais avec une thématique liée. Donc voilà, au fur et à mesure, l'utilisateur se balade de façon virtuelle au cœur de la Croix-Rousse.
Il se balade de façon virtuelle au cœur de la Croix-Rousse, à la rencontre des personnages qui ont été créés. Les petites séquences vidéo durent seulement 2 minutes. Et puis, il a toujours en référence une carte, la carte de la Croix-Rousse. Il peut tout le temps s'y référer, revenir sur cette carte et choisir de rentrer par une autre porte d'entrée. Finalement, on a redécoupé la websérie, on a recréé une histoire en immersion. Et c'est un projet assez intéressant.
Voilà, donc on est passé en fait, c'est ça, d'une multiplicité de portraits, un portrait global que l'utilisateur peut s'approprier avec sa souris.
C'est une sorte de jeu vidéo, de jeu de rôle, alors, interactif.
Et ben, c'est un petit peu l'aspect d'un jeu vidéo, parce qu'on avance, donc on progresse au fur et à mesure dans le web documentaire, on se laisse porter par ces choix qu'on a au fur et à mesure et qui construisent notre parcours. Mais ce n'est pas un jeu vidéo, alors que d'autres webdocs le font, dans le sens où il n'y a pas de gagnant. L'utilisateur, dans le principe, oui, ça y ressemble.
Mais il y a quelque chose
dans
qui...
Dans la déambulation, on va dire, numérique,
oui,
quoi.
Voilà. Surtout aussi, ce qui est ressemblant au jeu vidéo, c'est qu'on peut suivre sa progression, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on a vu 80 vidéos, ou je sais pas, 80 médias.
Le trajet s'affiche sur les pentes, enfin dans la Croix-Rousse.
Alors le trajet s'affiche pas, mais on débloque quand même des bonus. Il y a 16 bonus qui se débloquent au fur et à mesure, et en tout cas on suit la progression jusqu'à avoir vu les 80 médias qui sont proposés dans ce webdoc.
Et dans le trajet, justement, c'est le principe de l'immersion, on peut pas le voir sur la carte. On a donc la représentation des 30 portraits qui sont géolocalisés à l'endroit où ils ont été tournés, et donc on peut picorer parmi ces portraits les centres d'intérêt qui nous intéressent, enfin les sujets qui nous intéressent le plus, mais par contre on n'a pas, même si on a donc un point, on peut toujours consulter où on en est dans la progression du webdoc. On peut pas faire demi-tour, en fait. C'est comme une vraie promenade, on avance et puis on se laisse un petit peu porter.
Mais du coup, quand tu me parles de la carte qu'on a toujours en référence, tu sais, ça me fait penser à la carte qu'on a mis sur les cartes postales dans Travaux qu'on a diffusées dans tout Lyon. Est-ce que tu peux nous parler de ces affiches, de ces cartes postales là qui ont pris d'assaut la cité lyonnaise?
Alors, donc à la sortie...
Il y a l'affiche là-bas.
Il y a l'affiche. Il y a l'affiche à Radio Canu. Parfait.
C'était l'occasion.
La ville.
C'était l'occasion du premier passage de Morgane le mercredi 17 décembre dernier, en début d'émission, pour justement.
Un attentat non violent.
Indiquer ses 300 lieux, je crois, c'est ça? 300 lieux, me semble-t-il. Ou...
300 lieux de distribution, oui.
Et il y en a dans nos locaux, des cartes postales. Elles sont très jolies. Passez en prendre, distribuez-les autour de vous. Voilà.
On l'a indiqué, votre adresse, la rue Néret, ça a été dit? J'ai manqué ça.
Non, pente de la Croix-Rousse, mais effectivement, deux rues Néret, notre entrée est montée des Carmélites. Il y a le logo qui est peint dessus, vous ne pouvez pas nous louper.
Si une personne est intéressée par le poste d'attaché de prod, il n'a qu'à aller sur le site, se rendre sur le site pour l'annonce aussi.
Et puis pour postuler, tout est indiqué.
Sur le blog du spectaculaire où il y aura toutes les informations. Dès ce soir, grâce à monsieur Rollin.
je le ferai. Donc nous interrompions un instant Morgane qui souhaitait revenir sur cette diffusion par le biais de ces cartes postales de la web série.
Bah oui, en fait, donc on a sorti donc le 5 décembre 2014 pour l'anniversaire des 1 an de l'ouverture du tube de la Croix-Rousse. Cette plateforme Love Transmedia qui regroupe le webdoc et la web série. Et donc pour communiquer sur l'aboutissement de ce projet sur lequel on a travaillé pendant longtemps, toute l'équipe de Trabouloscope, on a prévu plusieurs actions de diffusion et de communication, et notamment on a créé des visuels qu'on a avec lesquels on a envahi la ville. Donc je vous invite à les chercher et trouver ces cartes postales, ces très jolies cartes postales, soit dans les points de distribution, soit comme vous l'a dit Perrine, chez nous.
Et puis, pour terminer avec En Travaux, le parcours Flash Code qui commence la semaine prochaine, le 11 février. Qu'est-ce que c'est, Morgane, le parcours Flash Code de la web série En Travaux?
Alors, le parcours Flash Code de la web série En Travaux, c'est une action de diffusion un petit peu particulière. On a décidé de ramener cette création qui est surtout diffusée sur le web, dans le réel, dans la rue, d'où elle vient. Donc, le parcours Flash Code, c'est une sorte de jeu de piste. On a réparti dans la ville 30 visuels qui comportent des flash codes qui ramènent chacun à un épisode d'En Travaux. Et ces visuels, on les a posés à proximité des vrais lieux de tournage de chacun de ces épisodes.
Par exemple, t'as mis le flash code de l'épisode 2 en bas de chez Monsieur Charles, par exemple.
Voilà, en bas de chez Monsieur Charles, comme on le disait, l'une de nos grandes stars, l'une des grandes stars d'En Travaux.
Avec son chien Sunny, hein, c'est ça?
Avec son chien Sunny. Donc voilà, ça commence le 11 février, ça se termine le 15 mai. On mettra en ligne sur le site de la websérie, donc mercredi prochain, le 11 février, les règles du jeu, du parcours Flash Code, et puis une carte repère qui indique où retrouver chacun de ces lieux de tournage véritables de la série.
Le jeu de piste commence la semaine prochaine. Merci Morgane pour En Travaux.
Merci Perrine. Donc on a assez parlé d'En Travaux pour aujourd'hui. Donc allez explorer le webdoc, naviguer, allez jouer au grand jeu du parcours Flash Code. Et passons sans transition à une autre de nos créations en cours qui s'appelle Jess. C'est ça, hein? C'est quoi Jess?
Jess, c'est donc le journal de l'économie sociale et solidaire. Une web-série de 12 capsules vidéo de 2 minutes. Donc, et l'objectif de cette web-série, en fait, c'est de faire découvrir aux jeunes le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Mais c'est quoi l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Bon, tu peux expliquer un petit peu?
Effectivement, si on veut le faire découvrir, c'est effectivement que ce n'est pas encore suffisamment connu aujourd'hui. Le concept d'ESS, d'économie sociale et solidaire, en fait, ça désigne un ensemble d'entreprises qui sont organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations. Et le fonctionnement en interne de ces structures et leur activité, ils sont basés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Donc, contrairement en fait aux autres entreprises du secteur économique dit classique, ces entreprises, elles adoptent des modes de gestion démocratique et participatif. Pour exemple, donc comme l'humain finalement est mis au cœur des réflexions et des décisions qui sont prises, nous on est une structure de l'ESS à Trabouloscope. Imaginons que mon contrat se termine à la fin du mois et donc il va falloir décider est-ce qu'on le renouvelle, est-ce qu'on le renouvelle pas. Ben ça va être décidé en conseil d'administration. Moi en tant que salarié, je suis invité à ce conseil d'administration. Tout le monde s'exprime, j'ai également mon mot à dire sur le sujet, et en tant que salarié, j'ai une vote sur la décision qui va être prise. Les choses sont faites en toute transparence, et finalement, il n'y a pas de surprise, c'est pas un grand patron qui va décider de mon sort.
Un avis de licenciement sur un portable, par exemple?
Pardon?
Un SMS sur un portable?
Voilà, et bien ça, c'est des choses qui ne sont pas présentes dans l'ESS. L'humain, voilà, est mis au cœur des réflexions, et il y a aussi quand même quelque chose qui est important, c'est que l'utilisation des bénéfices est réglementée, encadrée, le profit individuel duel est proscrit. En fait, l'ensemble de l'argent qui est les richesses qui sont produites, parce que c'est quand même des structures qui produisent des richesses, sont réinvestis dans la structure et dans le développement des emplois, finalement.
Utilité lucrative, je crois que c'était le terme employé sur, sur l'une de ces capsules.
C'est comme le crédit coopératif.
Tout à fait, le crédit coopératif fait partie de l'ESS.
Donc, bah, en fait, finalement, donc, cette web-série...
La web... Périne, oui, cette web série.
Ouais, bah la web série de Jess, l'idée c'est de faire découvrir aux jeunes, donc d'adopter un ton un petit peu léger. Et finalement, la première capsule vidéo de Jess, qu'est-ce que l'ESS, explique beaucoup mieux ça.
Vous inquiétez pas, moi non plus, je savais pas ce que ça voulait dire, ESS.
Pas un film avec Jean Dujardin.
L'économie du saucisson de Savoie.
L'économie subliminale et subjective.
Eh ben non, c'est l'économie sociale et solidaire.
Et c'est Enora qui va nous en parler.
L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui fait partie de l'économie globale, mais qui met en son centre l'homme et des valeurs comme le partage, la solidarité ou encore la tolérance, et qui cherche à résoudre des problèmes de société qui touchent à la fois l'homme et l'environnement. Les trois piliers de l'économie sociale et solidaire, c'est de répondre à une utilité sociale, c'est d'avoir une lucrativité limitée et de mettre en place une gouvernance participative. Associations, que ce soit de la petite association de quartier à la grande association comme la Croix-Rouge française qu'on connaît tous, les fondations. Donc, ce sont des grandes entreprises qui permettent de financer d'autres organisations. On a aussi des mutuelles et puis on a des structures coopératives. Depuis peu, certaines entreprises de l'économie traditionnelle peuvent appartenir à cette grande famille de l'ESS et pour cela, il faut qu'elles obtiennent un agrément. L'argent a un rôle, je dirais, central dans l'économie sociale et solidaire, puisque le premier mot qui compose ce secteur, c'est quand même l'économie. Donc, pour qu'il y ait économie, il faut qu'il y ait création de richesses et de valeurs et redistribution. L'économie sociale et solidaire, c'est pas l'homme qui est au service de l'argent, mais c'est bien l'argent qui est au service de l'homme.
C'est pas l'homme qui sert la thune qui sert l'homme, tu tu thune.
À bientôt.
Voilà, Jess disait à bientôt. Une précision.
Oui, donc vous venez d'écouter, le premier épisode de Jess. L'idée, donc, c'est ça, c'est de faire découvrir le secteur de l'ESS aux jeunes. Et pour le faire, donc, on a un personnage de fiction qui s'appelle Jess, qui est une citadine curieuse, enjouée, qui n'y connaît rien et qui va se renseigner, qui va partir à la rencontre des acteurs de l'ESS en Rhône-Alpes et à sa manière, avec un ton un petit peu léger et amusant, se renseigner. Ça sort à raison d'une capsule vidéo par semaine depuis le 20 janvier, donc il y a déjà trois capsules en ligne sur le site de Trabouloscope. Je vous invite à y aller faire un tour et à diffuser ça autour de vous. C'était Jess.
C'est super intéressant, j'ai trouvé. C'était vraiment très intéressant, c'était les propos qui terminaient les messages à caractère informatif de Canal+ dans les années 90. Mais pour le coup, oui, c'était vraiment très intéressant. J'ai pu voir ces trois capsules et j'ai trouvé ça très bien.
Merci.
Les subventions, on donne cette précision avant que Gérald évoque un grand organisme subventionné à Lyon.
Voilà. L'Opéra de Lyon. Oui, véritable OPA aujourd'hui, de Trabouloscope, mais opéré sur Spectaculaire.
La précision,
nous en sommes ravis.
La petite précision, c'est voilà, qu'effectivement... par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, Trabouloscope est aujourd'hui principalement autofinancé en grande majorité. Je crois que cette année, là, on vient de passer à 70% de ressources propres. Les subventions, finalement, représentent entre 10 et 15% de notre fonctionnement. On y tient, on va poursuivre dans cette direction-là. On fait de la création, on porte notre regard sur les sujets qu'on traite et on ne nous les impose pas. Sauf dans le pôle de prestation où là on co-construit les choses avec les structures qui nous le demandent, mais c'est un autre sujet.
Voilà, on a recours aux subventions seulement, exclusivement dans le cadre de nos projets de création. Et là en fait c'est ça, on a un projet, on a un scénario et puis on fait comme toutes les boîtes de prod en fait. On va chercher l'argent là où il se trouve et puis on toque à beaucoup de portes et notamment auprès des dispositifs de subvention pour la production audiovisuelle.
Mais c'était important de le dire, seulement.
Il me semble. Oui, c'était important de le dire.
Parce que tout esthétique est éthique.
Et ça, tout à fait.
Le contraire est vrai.
Esthétique, éthique.
Oui, mais
moi, je viens de lancer une pique à l'instant. Je ne sais pas si tu as bien repéré, Gérald. J'ai parlé de grands organismes,
oui,
de grandes entreprises subventionnées.
Je
fais écouter quelques notes de cette.
Voilà.
Je me rends compte que ça trahit un peu, hein, je crois. Je suis sur le site de l'Opéra de Lyon, ce sont les chœurs, et là je crois que le son était un peu criard. Alors que
les chœurs sont très très beaux, très magnifiques, très réussis.
De quoi est-ce que nous parlons?
Très beaux chœurs.
On
a parlé d'Idoménée.
Voilà.
Un opéra, de, on va dire opéra seria, opéra sérieux, de Mozart, juste avant l'enlèvement au sérail. Il a 25 ans, on est en 1780-1781. C'est une tragédie. Je ne vais pas raconter l'histoire maintenant, ça serait un peu compliqué.
Ah, surtout qu'on n'a pas le temps, Pascal.
Voilà.
Nous met
en tout cas,
la pression. Oui.
J'ai passé un très bon moment. Je ne suis pas très familier de l'opéra et a priori pas très même amateur, mais j'ai passé un bon moment. J'invite les auditeurs à y aller. Hein. Bon, alors ils verront peut-être pas bien, ça dépend le prix qu'ils mettent dans leur place.
C'est donné à l'Opéra de Lyon encore ce mercredi,
mais
ce mercredi
cas,
4 février, vendredi 6 également à 20h, et il faut y aller. Dis-tu, oui.
Il y a des très bons chanteurs et chanteuses.
C'est une bonne soirée parce que enfin comment dire, en termes de durée.
Petit sur des détails,
on rentre à 20h et on sort vers 11h30, c'est ça?
Voilà. Mais ouais. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout et c'est très riche, c'est très beau, on est secoué, beaucoup d'émotions. C'est un bel opéra, j'ai trouvé.
Et voilà, tout est en train de se mélanger. Générique de fin d'émission, je vais couper le Mozart là. Et puis voilà, Gérald,
Mieux sur le blog.
On en reparlera mieux sur le blog, voilà. Perrine ainsi que Morgane sont mortes de rire, c'est très bien. L'émission s'achève aujourd'hui. Je laisse la place au Blues des Canuts de Pascal. Il y a également ensuite Audio Infarctus à 17h, Méga Combi à 18h. Je ne sais pas s'il n'y a pas les sons bâtards à 16h aussi. Bref, programme chargé toujours, comme toujours sur Radio Canu. Le Canu Info aussi à 19h. Merci les filles.
Merci.
On vous retrouve. Je ne sais pas, moi, un jour prochain peut-être encore, parce que c'est bien quand vous venez, là, c'est la deuxième
les
fois.
Pirates.
Ça met une sacrée ambiance.
Les pirates,
un peu de temps pour préparer mes questions.
C'est quand même assez génial.
Non, déjà plus voir le site.
Et je crois que c'était de bonne qualité, là, les vidéos diffusées, c'était très intéressant. Oh mon Dieu, 15h a sonné.
Merci à vous, merci Christophe, merci Gérald, et merci Radio Canu, spectaculaire, à très bientôt.
On fait relâche, nous, la semaine prochaine. Rendez-vous 18h. Salut tout le monde.
Avec le Brésil.